Alors, vous avez remarqué ici, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre, Adam et Ève, ils s'ouvrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres. Il y a un changement quand ils ont désobéi. Il y a un changement qui se produit immédiatement. C'est pas comme ils espéraient, comme Ève espérait d'être comme Dieu. Non, ils vont, le regard sur eux-mêmes va brusquement changer. Et le texte souligne avec soin qu'ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Chose que avant, ce n'était pas du tout un problème pour eux. Et il va y avoir ce premier changement. C'est le regard qu'ils ont sur eux-mêmes qui va changer. Ils prennent conscience de leur nudité, de leur faiblesse, de leur fragilité. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils essayent de se bricoler un vêtement pour se dissimuler, pour se cacher. Et une deuxième conséquence, ils ont peur de Dieu. Quand Dieu s'approche d'eux, ben, ils ont peur. Deuxième conséquence. Et une troisième conséquence, alors ils se cachent. Ils se cachent loin de la face de Dieu, ils se planquent, ils veulent se dérober à la présence de Dieu. Et on l'a vu dans notre texte après, on ne va pas trop regarder ça ce matin, mais on voit qu'ils s'accusent l'un l'autre, ou que c'est pas moi, c'est l'autre. C'est les premières disputes qui arrivent aussi à ce moment-là. Des conséquences donc qui s'étaient bien éloignées de ce que promettait le serpent et combien Ève et Adam devaient être confus de se retrouver dans cette situation. Le Dieu créateur cependant réagit. Alors il réagit de quelle manière lorsqu'ils ont désobéi? Eh bien, on voit que il se manifeste, peut-être c'était quelque chose qu'il faisait habituellement, que de venir à la rencontre de Adam et Ève dans le jardin en tout cas, il parcourt le jardin. Alors c'est quelque chose de très poétique qui est écrit dans le texte, parce que la voix ça peut être le son, parcourir ça peut être marcher, et vers le soir, littéralement ce serait au souffle du jour. Alors, pourquoi on dit vers le soir? D'autres traduisent à la fraîcheur du soir. Quand le jour se termine, quand il y a la fraîcheur qui arrive, donc Dieu arrive aussi à ce moment-là. Et donc, il n'y a rien d'effrayant dans la façon dont Dieu va s'approcher de Adam et Ève. Et vous l'avez vu, il les appelle. Où es-tu? Où es-tu? Où? Littéralement, il y a c'est où? Où est-ce que tu es? C'est pas tellement que Dieu savait pas où se trouvaient Adam et Ève, qu'il les avait perdus de vue. Non, le Dieu créateur maîtrise toute sa création. C'est plutôt qu'il veut leur, peut-être, je suppose, de leur faire prendre conscience de la situation dans laquelle ils sont. Où es-tu? Où est-ce que vous en êtes maintenant? Où vous êtes? Que vous est-il arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Et ensuite, qu'est-ce que Dieu fait en réponse à ce problème? Ah ben, il pose les faits. Il établit les faits comme un enquêteur qui va poser des questions et qui va établir un procès verbal de ce qui s'est passé. L'Éternel mène l'enquête, il interroge. Et ensuite, suite à ça, il prononce un jugement. Et le verset 21 qui nous intéresse ce soir, parce que vous avez remarqué que ce passage parle beaucoup de la perte de l'innocence, il y a une bonne partie qui est consacrée à cela. Alors on va passer un peu de temps ce matin. À la fin, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêt de ces habits de peau. Alors, qu'est-ce que ce texte peut nous apprendre, nous apporter ce matin à nous qui sommes au 21e siècle? Ah ben, si on se regarde tous autour de nous, ah ben, je constate que nous avons tous des vêtements. Nous avons tous des habits ce matin. Vous avez remarqué comme c'est curieux? On a tous des habits. C'est même un trait caractéristique de l'espèce humaine, c'est qu'on porte des habits. Et dans du moins toutes les cultures que je connais personnellement, on a toujours, les hommes ont toujours un minimum de vêtements sur eux. C'est comme ça. Alors pourquoi on porte des habits? Pourquoi on porte des habits? C'est pour la fonction première, peut-être, c'est pour se protéger du climat. Hein? S'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, il convient d'avoir des habits adaptés à chaque situation. Et les mamans veillent à ce que leurs enfants portent des habits convenables qui va les protéger. Donc, un rôle protecteur à nos habits. Chose qu'on ne trouve pas du tout chez les animaux. Et puis, il y a aussi un autre rôle des habits qui est important, c'est d'être beau avec. Ça nous embellit bien. Quand on porte de beaux habits, ma foi, on se trouve plus agréable, on se trouve mieux avec des vêtements adaptés. Et des fois, c'est une grande question. Souvent, les dames se posent la question, mais qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Et le choix de l'habit dépasse largement le côté de se protéger ou pas. C'est quelque chose qui doit refléter un petit peu quelque chose que l'on est. En tout cas, ça nous embellit bien, il faut dire, les habits. Ça arrange bien les choses d'avoir de beaux habits. Est-ce qu'il y a une autre raison à ce que nous portions des habits? Il y a, vous savez, hein, la protection de la pudeur. Si quelqu'un se promène sans habit, les gendarmes vont lui dire « Voilà, non, il faut vous habiller. » Atteinte à la pudeur, ça s'appelle. Tout le monde porte un habit. C'est comme ça. Et donc, l'habit également a cette fonction de nous couvrir, de couvrir notre pudeur. Et on porte tous des habits aussi pour cette raison-là. Ça nous ramène à Adam et Ève qui étaient nus avant et après, qui se sont mis à porter des habits. C'est la seule histoire que moi personnellement je connaisse de la venue, de l'existence des habits chez les hommes. Peut-être vous avez d'autres explications. Moi je n'ai jamais entendu d'autres explications que celle-là. Adam et Ève avaient perdu leur innocence. Si avant ils étaient nus comme des bébés nouveau-nés, après il va falloir s'habiller lorsque l'on va grandir un petit peu. L'innocence, la définition que donne le Larousse est celle-ci, c'est l'absence de culpabilité. La pureté de quelqu'un qui ignore le mal. La naïveté, la simplicité, l'esprit de candeur. Voilà l'innocence, être innocent. Alors, sommes-nous des innocents ce matin? Suis-je innocent? On avait vu qu'il y avait quatre conséquences à la désobéissance d'Adam. Il y avait la conscience du changement, de se bricoler un vêtement. Et nous aussi, lorsque nous ne sommes pas dans la même situation qu'Adam dans le jardin, mais lorsque nous péchons, lorsque nous faisons quelque chose de mauvais, c'est vrai qu'on se cherche des excuses. C'est une forme de vêtement. Il y a aussi l'hypocrisie, on fait semblant. On porte un vêtement d'hypocrisie. On est à l'intérieur, quelque chose qui est différent de ce qu'on reflète à l'extérieur. Et on fait semblant, on porte un masque. On se cache de cette façon-là. On se compare aussi les uns aux autres. Et comment est celui-là, finalement, il n'est pas mieux que moi. Et puis celui-là, il est pire. Et puis celui-là, peut-être, il est un peu meilleur, mais est-ce que c'est vrai? Alors, on se trouve comme ça, des vêtements de bricolage. Et puis, il y a également la compensation. On essaye de compenser. Les hommes, ils sont fortiches pour faire ça. J'ai fait quelque chose de mal. Ah ben, je vais aller essayer de compenser en faisant quelque chose de bien à côté, en espérant que ça va balancer. Mais dans le fond, on a toujours notre problème avec nous dans ces situations-là. Est-ce que je suis sûr que j'ai assez compensé? C'est ça la question. Et ils se cachent loin de Dieu. Ils ont peur de Dieu et ils se cachent loin de Dieu. Alors peut-être nous aussi ce matin, on a peur de Dieu. Se cacher, c'est... Ben, on fait comme s'il n'existait pas. Hein? Aujourd'hui, on va faire comme ça. On va essayer de l'oublier à travers toutes sortes d'activités, histoire d'oublier Dieu, qu'il soit loin de notre vie. Et puis, moi, je m'occupe de mes affaires. Et puis, lui, il s'occupe des siennes. Et je me mets loin de lui. Je me dérobe à son regard. Je ne cherche pas à le rencontrer. Je coupe la communication avec lui. Et également, Adam et Ève ont eu à ce moment-là des problèmes relationnels. Et puis, nous aussi, vous avez remarqué, on a des problèmes relationnels. Ça commence tout en haut jusqu'à tout en bas, de l'école maternelle, si on commence par le bas, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Vous avez remarqué, les gens, ils se disputent, ils ne s'entendent pas, ils se renvoient la balle, et c'est quelque chose dans lequel nous baignons. Et dans la cour de récréation, les petits-enfants, ils se chamaillent, ils se prennent toutes sortes d'histoires. Des fois, c'est vrai, ça se passe bien, et d'autres fois, c'est dommage, ça ne se passe pas bien. Et dans les familles également, et à tous les niveaux, on trouve des problèmes relationnels entre les hommes et les femmes. Donc, ça nous fait dire que nous ne sommes sans doute pas innocents, nous non plus. Alors, Dieu avait réagi à ce problème de désobéissance chez Adam et Ève. Et comment Dieu va réagir chez nous? Ben, un petit peu de la même manière. Excusez-moi, pendant j'ai sauté un passage parce que dans ces conséquences qu'il y a chez nous, il y a un problème, peut-être que vous avez noté, c'est que bien souvent on voit même pas le problème de la nudité que nous pouvons avoir. À ce stade, j'avais prévu de lire, c'était plus grave que chez Adam même, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. C'est une vision qu'il est donnée à Jean dans le ciel, et donc cela concerne les temps de l'Église, dont les temps de maintenant. C'est tout à fait d'actualité, ce passage, qui sont dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Verset 14, écrit à l'église de Laodicée, dit-on à Jean. Voici ce que dit l'Amen, le Oui, le témoin fidèle, le principe de la création de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà le verset 17. Parce que tu dis, chapitre 3, verset 17, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle, et que tu es nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes véritablement riche, que tu aies des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour te mettre dans les yeux, pour que tu y vois bien. Les yeux de Adam et Ève s'étaient ouverts, et nos yeux, à nous, ils sont souvent fermés. Ils sont fermés, ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir le problème que pose le péché sur notre personne. Ils ne veulent pas voir, ici le texte, « Tu ne vois pas que tu es nu ». J'avais préparé une belle image avec un monsieur qui semblait tellement content de lui, et puis qu'il était aveugle, et il allait faire un pas dans un précipice. Il ne se rendait pas compte qu'avec tout ce qu'il avait, spirituellement, il était complètement nu, et il se promenait ainsi, et que ce n'est pas une bonne chose que la nudité. Et pour nous aujourd'hui, donc, nous ne devons pas être nus. Ici, le texte, il est dit, afin que tu sois vêtu, je te donne un vêtement blanc pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alors, Dieu intervient dans la vie de Adam et Ève, qu'il intervienne aussi dans nos vies. Premièrement, ce n'était pas le problème de Adam, mais ça peut être le nôtre, d'avoir les yeux ouverts sur le problème du changement que produit en nous le péché. Cet avant et cet après, combien quand on fait une faute, on est différent avant et après. Qu'on en ait conscience. Dieu se manifeste à nous. Alors le son de sa voix, on n'est plus dans le jardin. Il se manifeste d'une façon différente. Mais je pense qu'il sait très bien parler au cœur de chacun d'entre nous. Vers le soir, il dit une question dans le jardin. Dieu nous appelle à des moments où nous pouvons bien entendre, où nous pouvons être disposés. Et puis, il y a l'établissement des faits. C'est un passage obligé avec Dieu. Il faut un moment, il faut faire la liste, de établir les faits. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et comment. Comme quelque chose de très rigoureux, Dieu qui sait tout, nous juge sur des faits, sur des choses réelles et concrète. Peut-être ce matin, ça nous met en garde que nous fassions, nous, on fait la même chose, la chose inverse, on ne sait pas, et puis on porte des jugements sans même poser de questions. Mais là, on a l'exemple de la façon dont il faut faire, et enfin Dieu nous donne un vrai vêtement. Ce vêtement, le Nouveau Testament nous rappelle qu'il s'appelle Jésus-Christ, la justice plus précisément de Jésus-Christ, sa sainteté, lorsqu'il s'est livré à la croix. Vous savez, la crucifixion romaine, et le texte des évangiles nous le précise, les vêtements de Jésus-Christ ont été arrachés et ils ont été partagés. Et Jésus-Christ s'est retrouvé dépouillé, dénudé, sur la croix, exposé à l'ignominie, à la honte de tout le monde. C'était certainement dans le plan de Dieu que cela se passe ainsi et qu'il meure de cette façon-là, nu sur une croix, crucifié par les hommes, pour jusqu'au bout pouvoir que Dieu puisse nous donner son vêtement de justice à lui. Son vêtement de justice. Est-ce que l'innocence dure, la perte de l'innocence dure, est-ce que lorsque je ne suis plus innocent, est-ce que je vais retrouver mon innocence d'avant? Ah ben ça se produit pas. Adam et Ève ne sont jamais revenus dans le jardin d'Éden. L'accès leur a été définitivement fermé. Et pour nous aussi, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est fait, il n'y a pas moyen, pas de possibilité de retrouver notre innocence. Ce que nous avons, c'est simplement ce vêtement de justice qui va nous couvrir, qui va nous couvrir. Ce vêtement de justice que Jésus-Christ nous donne, il va nous protéger, un petit peu comme nos vrais vêtements, il va nous protéger des attaques de Satan, de tous les problèmes auxquels nous pouvons, qui peuvent survenir dans notre vie lorsque notre foi va être mise en doute, lorsque les flèches de l'ennemi vont être tirées contre nous, ce vêtement de justice va nous protéger dans l'épître aux Éphésiens, dans la dernière chapitre. On parle de l'armure du chrétien, une armure, un vêtement qui est comme une armure pour nous protéger. Le vêtement que nous portons en des fonctions qui sont beaux également, aussi avec ce vêtement de justice que Dieu nous donne, nous aussi, nous sommes beaux. Nous sommes beaux de nouveau. Cela couvre absolument toutes nos fautes. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien qui se voit et Dieu nous voit avec le vêtement de Jésus-Christ et il nous voit beau, réellement beau. Alors ce vêtement est tellement important. Il cache notre nudité, il cache le péché aux yeux de Dieu. Ayant le vêtement de Jésus-Christ, nous pouvons aller et entrer dans sa présence. Alors veillons à toujours prendre soin de ce vêtement. Comment on prend soin de son vêtement? Quand vous les entretenez, vous veillez à les porter correctement, etc. Et nous aussi, on doit toujours veiller, pour ce qui est des choses spirituelles, à entretenir le vêtement que Dieu nous a donné. On va lire un beau passage de l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Pour terminer. Philippiens. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Philippe, qu'il aime beaucoup. Et il parle de son expérience. Il parle combien, lui, avant, il avait sujet d'être fier de lui. Il était d'une bonne famille, il était israélite, il était privilégié, il avait été instruit au pied des plus grands rabbins. Il observait la loi de façon rigoureuse de l'extérieur. Il avait un habit impeccable, mais de l'intérieur, cet habit n'était pas le bon. Voilà ce qu'il écrit. Dans le bon Philippiens, chapitre 3. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, de l'observation des rites, de l'observation des règles, de tout ce qu'on veut faire, mais de celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'était la promesse qui suivait notre passage de livre de l'Apocalypse tout à l'heure. Alors que nous puissions nous accrocher à ces promesses, que nous puissions, frères et sœurs et chers amis, veiller à saisir ce vêtement que Dieu nous propose pour couvrir notre nudité et puis à le conserver précieusement. On va prier. Notre Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle réveille en nous. Et merci Seigneur pour Jésus-Christ. Merci pour sa justice que tu nous donnes. Merci parce que c'est par la foi que nous le portons. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. Combien le vêtement que tu avais à donner à Adam et Ève était beaucoup mieux que les quelques feuilles de branchage qu'ils s'étaient procurées. Combien, Seigneur, ce vêtement, combien mieux que tous les artifices avec lesquels on veut dissimuler ce qu'est le péché dans nos vies et de ses conséquences. Merci, Seigneur. Veille sur nous, veille sur chacun d'entre nous pour cette semaine. Conduis-nous en ta joie, en ta bonté, Seigneur, et veille sur chacun de nous. Par Jésus. Amen. Amen.